6, 5, 4, 3, 2, 1.
Extra-muros.
Extra-muros.
Transistor sort de ses murs.
Transistor sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Vous parlez français ?
Vous faites quoi, là ?
Ah, vous êtes le chef ?
Il n'y a pas de chef, ici.
Gvogel les Mouettes, en direct, depuis le 47e Festival du cinéma de Douarnenez.
Et en presque direct, sur Transistor 100.4 FM.
Vogel,
Vogel,
tiret,
les Mouettes.com.
.com.
Please, fast, your position, please, your position.
33, 51.
Yes. And then under.
Okay, AC 52. We have a small children, please, can you have a break?
Okay, how many people on board?
I think it's about 150 people.
100? What kind of boat? What?
It's between 130 to 150.
Okay.
And we have most of them is women and kids. Please, can you help us very quickly? Yeah, we are thinking. We are staying here in the same coordination. We will not move.
How many people?
Please.
How many people?
250.
Your position.
Please, you beg, please, Zeba.
Your position.
In the name of God.
Your position.
Yeah, our position. One, beloved.
Your position.
We are in the Mediterranean. We are in the Mediterranean. Please.
Nous sommes en passerelle sur un gros navire italien. Il fait nuit et dans l'obscurité, des voix résonnent. Elles disent « Nous sommes 160, nous sommes 300 et nous coulons ». Elles appellent à l'aide. Pendant ce temps, à quelques milles nautiques, les habitants de la petite île de Lampedusa voient leur vie rythmée par les annonces quotidiennes de morts retrouvées sur leur plage. Samuele, 12 ans, grandit sur cette île étrange et sauvage qui, depuis plus de 20 ans, se trouve sur la route de milliers de personnes cherchant désespérément à atteindre les rives de l'Europe. Bonjour, on est bien sur Vogel les Mouettes en direct de la place du festival du 47e festival de cinéma de Douarnenez. Et nous sommes en compagnie de Lisa.
Bonjour.
Et de Valérie.
Bonjour.
Et l'extrait que vous venez d'entendre vient du film Foco Amare de Gianfranco Rossi, qui passera ce soir à la balise et qui est l'occasion pour nous de revenir sur 10 ans d'opérations de sauvetage en mer avec deux associations qui œuvrent sur ce territoire, Alarme Faune et SOS Méditerranée. Alarme Faune n'a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui, donc on entendra des extraits préenregistrés de rencontres avec eux. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Valérie, qui est bénévole à SOS Méditerranée. Bonjour Valérie.
Bonjour SOS Méditerranée et le relais Finistère Sud, parce qu'il y a une antenne très très active ici sur le Sud-Bretagne, le Sud-Finistère.
Au cours de l'émission, on aura aussi le plaisir d'entendre d'autres petits sons. Lisa.
Oui, notamment, on aura le plaisir d'entendre Mortaza Peyboudi, qu'on accueillera avec une joie non dissimulée et beaucoup d'émotion, qui nous parlera de la blanquette de veau afghane sur le festival.
On a hâte. Mais en attendant, on va commencer. Je vous rappelle que donc on est sur Vogel les Mouettes et aussi en léger différé ce soir sur Transistor au 100.4 à 18h. Donc on va commencer, Valérie, tu es bénévole à SOS Méditerranée, du coup à l'antenne Finistère Sud. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte de création d'SOS Méditerranée ? Dans quelles circonstances l'asso s'est créée ?
L'association s'est créée en 2015. Souvenez-vous, 2015, c'est un moment de crise de l'accueil complètement révoltant dans toute l'Europe. C'est des dizaines de... de milliers d'exilés qui sont sur les routes, qui sont dans des embarcations de fortune, et des citoyens complètement indignés entendent aux infos aussi les très nombreux naufrages que l'on voit, que l'on a en Méditerranée. Vous avez entendu cet extrait du film de Foucault Marais qui a été donc tourné en 2015-2016 à Lampedusa, et donc ces terribles appels au secours de cette femme qui se retrouve avec 160 personnes en train de faire naufrage. Eh bien, ces citoyens en 2015-2016 l'entendent aussi, et ils créent donc SOS Méditerranée. À ce moment-là, il y a aussi d'autres ONG du même type qui se créent, hein, en Allemagne et ailleurs. Mais SOS Méditerranée arrive à vraiment fédérer en France notamment énormément de gens. Et aujourd'hui, nous sommes 900 bénévoles dans toute la France, une quarantaine de salariés et un bateau affrété pour des sauvetages en Méditerranée centrale. C'est l'Ocean Viking. On a eu l'Aquarius pendant plusieurs années, maintenant l'Ocean Viking, avec trois missions: sauver, protéger, témoigner. À chaque fois que vous allez rencontrer un bénévole d'SOS Méditerranée, il vous parlera de ces trois missions: sauver, protéger et témoigner. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui.
Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment opère l'association, sur quel territoire et avec quel fonctionnement ?
Alors, l'Ocean Viking opère sur la route migratoire maritime qui est la plus mortelle au monde. C'est celle de la Méditerranée centrale, donc dans les eaux internationales situées entre la Libye et l'Italie. En fait, les conventions maritimes divisent la mer en plusieurs zones. Et le droit maritime s'applique. Et le long des côtes, ben jusqu'à 12 000 nautiques, hein, environ 22 kilomètres. On est ici à Douarnenez. À Douarnenez, il y a beaucoup de gens qui connaissent évidemment ce que veulent dire 12 000 nautiques. On a les eaux territoriales d'un État. Et au-delà, eh bien, on peut intervenir. Et l'Ocean Viking travaille donc au-delà des eaux territoriales libyennes pour d'abord repérer les embarcations fragile et puis tenter de sauver ces personnes sur la route de l'exil.
Du coup, oui, je résume, l'Ocean Viking opère plutôt dans les zones territoriales à la limite des zones territoriales libyennes.
C'est ça, entre l'Italie et la Libye, en deçà des 12 000 nautiques.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation en Libye, en fait, pourquoi les gens se retrouvent là et pourquoi ils embarquent en mer Méditerranée ?
Effectivement, c'est un pays très difficile sur la route de l'exil, où les gens se retrouvent souvent dans des situations d'esclavage. Ils nous racontent ensuite ce qu'ils appellent presque tous l'enfer libyen. Alors vous avez peut-être croisé autour de vous des exilés qui ont eu la malchance de passer par ce pays, ou vu ou lu des témoignages. Je pense notamment au film, puisqu'on est dans un festival de cinéma, le film Mon Capitaine, qui raconte très concrètement et très durement cet enfer libyen, avec ses prison, cette torture, cette obligation de travailler pendant quelquefois des années de façon gratuite et dans de très mauvaises conditions, qui amène les gens à devoir prendre la mer dans des conditions extrêmement difficiles, sur des embarcations qui ne vont évidemment pas tenir la route jusqu'en Italie.
Oui, on parle effectivement de traite humaine. Il y a beaucoup de personnes qui rapportent des témoignages de viol, d'esclavage, et donc qui embarquent sur des embarcations assez vétustes au départ de la Libye.
C'est ça, c'est-à-dire que ce sont souvent d'ailleurs des exilés qui vont se retrouver dans la situation épouvantable de devoir conduire, de devoir skipper l'embarcation, des embarcations où il y a très peu de, ne serait-ce que de gasoil, et donc ils se retrouvent souvent sans énergie au milieu de la Méditerranée, avec aussi pas forcément d'instruments de bord pour pouvoir se diriger, avec des embarcations qui sont surchargées, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des gens qui se marchent dessus, enfin c'est extrêmement difficile, et avec de l'essence qui coule, une difficulté pour boire de l'eau, donc des gens qui se retrouvent très très déshydratés aussi.
Oui, et sachant qu'on a un peu l'image de la mer Méditerranée comme étant une mer assez tranquille, etc. Alors qu'en fait, ça peut être une mer extrêmement agitée, notamment dans les périodes hivernales.
Oui, pas seulement hivernales. Hein. C'est connu que la Méditerranée est une mer où le vent est très, très surprenant. Et que, contrairement à l'Atlantique, justement, c'est très difficile de prévoir les conditions de mer.
Tu parlais du film Mon Capitaine, et il y a aussi l'exposition de Alarm Faune qu'on peut voir à Livret Semblable et qu'on a aussi rencontré. Ils sont sur le festival et c'est à l'occasion de leurs 10 ans, où ils précisent bien rien à célébrer, tout a continué. Donc on peut peut-être les écouter et puis revenir avec toi, Valérie, juste après.
Volontiers.
En fait, Alarm Faune a été créé au mois d'octobre 2014. Un an après deux gros naufrages en mer Méditerranée qui ont été médiatisés et qui auraient pu être évités si les autorités européennes avaient fait leur travail. Et en fait, ça faisait un moment déjà que des réseaux activistes des deux côtés de la Méditerranée, en Europe et au Maghreb, réfléchissaient à créer une structure plus de soutien concret aux personnes qui traversent la Méditerranée. Suite à des rencontres du père Rezaï et d'une autre personne en Italie, je suis désolée, j'ai plus le nom, mais qui recevait déjà des coups de fil. En fait, le père Rezaï, qui résidait en Italie, était issu de la communauté érythréenne et recevait déjà des coups de fil, lui, de personnes qui traversaient et qui demandaient, du coup, des secours. Et du coup, la rencontre avec ces personnes-là, les naufrages... et puis les discussions entre les réseaux militants au nord et au sud de la Méditerranée ont abouti à la création d'Alarm Faune, qui a pris entre octobre 2013 et octobre 2014 au moins un an de mise en place aussi technique, de réflexion à comment le mettre en place de manière pratique, quoi. Vraiment, la mission de départ, c'est une permanence téléphonique 365 jours par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Permanence téléphonique de détresse en mer pour les personnes qui traversent la Méditerranée ou qui prennent la route atlantique vers les Canaries ou la Manche au départ de Calais ou de Belgique. Hein. Et on couvre aussi la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce. Nous, on demande l'abolition du régime des visas ou un visa pour tout le monde. En fait, les marchandises ont le droit de circuler et on demande à ce que tout le monde ait le droit de circuler, sachant que ce régime des visas est vraiment basé sur une politique raciste et néocolonialiste des rapports des pays du Nord vers les pays du Sud. La deuxième mission principale qui s'est développée et qui complète celle de la permanence téléphonique, c'est celle faite par les camarades du Sud dans les zones de départ, de prévention et de sensibilisation. Voilà. Après, aussi dans l'extension des missions d'Alarm Faune, il y a celle de documenter, notamment au sujet des violences en mer et aux autres frontières, ce qui fait qu'on fait des rapports sur ce qui se passe dans les différentes zones sur lesquelles on est présente. Et notamment, je pense à la Grèce, où là, on a un site internet qui recense, à partir des témoignages des personnes concernées, les refoulements que les personnes ont subis par les autorités grecques, les gardes-côtes grecques. En fait, c'est un réseau à Alarm Faune. Et du coup, travaille en réseau et donc a des connexions sur d'autres champs d'action, sur lesquels on est directement aussi interpellé du fait du travail, notamment en première ligne, sur les histoires de criminalisation, sur les zones de départ, par exemple, où c'est les camarades du Sud qui y vont aussi, sur le lien avec les familles, quand il y a des personnes décédées et qui, du coup, sont renvoyées, par exemple, au Maroc, et aussi sur le rapatriement des corps dans les pays d'origine. Et on a aussi le lien avec les familles et les proches de personnes disparues à travers le mouvement de commémoration. La commémoration, c'est dire ni oubli ni pardon. C'est vraiment dans l'idée que ces personnes-là ne tombent pas dans l'oubli et de dire que, en fait, ce ne sont pas des statistiques, mais des personnes avec une vie, une histoire, une famille, des rêves. Du coup, de rappeler ça. Quelque chose d'important à savoir dans le mouvement de la commémoration, c'est que les personnes qui disparaissent aux frontières ne sont pas forcément des personnes qui disparaissent en mer. Beaucoup de personnes disparaissent aussi dans les prisons européennes et sur les routes aussi européennes. C'est-à-dire que les personnes arrivent, mais en fait, après disparaissent aussi.
Vos gueules les mouettes, una radio collectiva, associativa, alternativa, chévere y muy chévere.
Vos gueules-les-mouettes.com
en direct, direct et en public.
On est toujours avec Vos gueules les mouettes, avec Lisa et Valérie en direct de la place du festival.
Et en direct sur le presque direct de Transistor 100.4 FM.
Et on est toujours en train de parler des opérations de sauvetage en Méditerranée avec Valérie, qui est bénévole à SOS Méditerranée. Du coup, Valérie, maintenant qu'on a parlé un peu du contexte général, de comment ça se passe en Libye, des trajectoires des gens qui arrivent et qui sont candidats à la traversée, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment se passe la traversée et de quand intervient l'Ocean Viking, qui, on le rappelle, est le navire de SOS affrété par SOS Méditerranée pour le sauvetage ?
Avec SOS Méditerranée, on a sauvé 42 577 personnes à ce jour depuis la création de SOS Méditerranée. 42 577 personnes en 10 ans. Alors on peut vous raconter effectivement comment se passe un sauvetage. Ben c'est d'abord des heures et des heures et des heures de recherche, de longues heures aux jumelles sur la passerelle avec des personnes qui cherchent, c'est comme une aiguille dans une meule de foin, qui cherchent une toute petite embarcation qui va être visible dans la houle. Et puis lorsqu'on a repéré quelqu'un ou lorsqu'on a effectivement, comme on l'a entendu en début d'émission, eu un contact avec un canot en difficulté, les équipes à bord contactent d'abord et toujours les autorités qui, malgré les obligations légales, ne se déplacent quasiment jamais. Mais ça, c'est très important. On commence par ça. On essaye d'abord que ce soit les autorités qui prennent le relais sur le sauvetage. Et puis ensuite, on s'approche doucement de ces embarcations en difficulté. Et il y a une distribution de gilets. Il faut aussi calmer les personnes qui sont dans ces rafios et ensuite les évacuer. Puis ensuite, à bord de l'Ocean Viking, il y a une prise en charge médicale et également un soutien psychologique. Et quand on entend les récits de ce qui leur est arrivé, vous pouvez tout à fait comprendre l'importance de ce soutien psychologique que nous pouvons donner dès les premières heures à bord. Et puis ensuite, il y a l'évacuation. Et l'évacuation, c'est d'ailleurs la fin du sauvetage, parce que selon le droit international maritime, le sauvetage n'est vraiment terminé que lorsque les personnes sont débarquées dans ce que nous on appelle, enfin, dans ce que l'on appelle d'un point de vue du droit international, de ce que l'on appelle un lieu sûr. Voilà comment ça se passe dans les grandes lignes, un sauvetage.
On rappelle d'ailleurs que les activités d'SOS Méditerranée sont en pur accord avec la loi maritime internationale.
Alors, effectivement, SOS Méditerranée ne mène que des actions qui sont légales. Ça s'inscrit dans le cadre légal des opérations de sauvetage, dans le droit maritime international, avec tous ses principes. Et les principes, c'est l'obligation de prêter assistance. Hein, tous les capitaines et les États ont obligation de prêter assistance sans délai à quiconque qui est en détresse en mer. Bon, on voit que sur la réalité, hélas, heureusement qu'il y a des citoyens qui se bougent, comme tous les donateurs et les bénévoles de SOS Méditerranée.
Jusqu'en 2016, l'État italien menait une opération qui s'appelait Mare Nostrum, qui avait vocation, financée par l'État italien, de porter secours aux personnes qui tentaient la traversée. Et en fait, cette opération, faute de moyens, s'est arrêtée. Et pendant une certaine période de temps, il n'y a eu aucune opération de sauvetage en mer. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des conséquences que ça a eu ou que ça n'a pas eu?
Justement, on n'a pas vu en tout cas de conséquences sur ce qu'on pourrait appeler l'appel d'air dont parlent de temps à autre ceux qui cherchent à criminaliser les ONG de sauvetage qui interviennent en Méditerranée centrale. Effectivement, il y a eu une sorte de battement avant qu'il y ait une flotte d'ONG qui soit coordonnée par les gardes-côtes italiens. Ça, c'est donc sur la période 2015-2018. Et en tout cas, sur cette période-là, on n'a pas vu d'afflux particulier d'exilés. Ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des gens qui quittent leur pays et qui se retrouvent en situation de devoir prendre la mer dans ces conditions très précaires en Libye, n'ont pas eu le choix. En général, ils ont quitté leur pays pour des questions de guerre, de famine, ou alors de problèmes personnels très importants, ou alors parce qu'ils fuyaient une dictature. Enfin, en général, c'est pas parce qu'il y a eu un rêve sur la France. Et puis, je voudrais aussi dire en un mot, qu'il y a plus de 80% des gens qui quittent leur pays, donc des exilés dans le monde, qui restent dans les pays limitrophes de leur pays, qui ne cherchent pas à aller plus loin. Et en fait, ceux qui se trouvent ensuite en situation de détresse maritime en Méditerranée, donc qui nous intéressent, nous, à SOS Méditerranée, ben vraiment n'ont pas eu le choix.
Oui, et d'ailleurs, je me permets de me faire le relais de quelque chose que Sabrina d'Alarmphone m'a confié en off par rapport aux raisons de départ du pays. Il y a effectivement tout un tas de raisons sociales, politiques, de sexualité, de religion, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui pousse à fuir son pays. Mais Sabrina m'a dit quelque chose qui m'a plutôt marquée. Elle m'a dit « Mais on a aussi le droit d'être jeune, d'avoir 20 ans, d'avoir des rêves et d'avoir envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe. » Donc ça fait aussi partie des motifs de départ. Alors je pense qu'ici, on fantasme peut-être le rêve européen. Mais j'ai trouvé ça assez juste. On a le droit de ça et ça sera l'occasion un petit peu plus tard d'en rediscuter avec d'ailleurs Babacar. Mais avant ça, j'aimerais que tu me parles un petit peu des difficultés que rencontre aussi l'Ocean Viking. On sait que depuis peut-être 2 ans maintenant, j'ai pas les dates en tête, l'extrême droite est au pouvoir en Italie et ça a un impact direct sur les opérations de SOS Méditerranée.
C'est vrai, vous savez que c'est une femme d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui est au pouvoir donc depuis 2022. Et depuis, bien effectivement, il y a un décret-loi qui nous complique vraiment, vraiment la tâche. C'est le décret-loi Piantedosi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un décret-loi qui permet au gouvernement italien d'obliger les ONG à aller débarquer, les personnes secourues, dans des ports sûrs, certes, mais très, très éloignés des zones de sauvetage, avec des risques aussi d'immobilisation et de nos navires, hein, de l'Ocean Viking en ce qui concerne SOS Méditerranée, ou d'amendes très élevées si on n'obtempère pas, si on se déroute pour aller chercher d'autres naufragés sur notre route. Donc du coup, on se retrouve, après avoir effectué un sauvetage, à devoir faire quelquefois 5-6 jours de mer avec un coût énorme pour aller débarquer les rescapés très loin de la zone de sauvetage. Ensuite, il faut aussi revenir avant de se retrouver en situation de reprendre notre veille. Et ça coûte extrêmement cher, puisqu'il faut savoir qu'une journée de navigation pour l'Ocean Viking, c'est 24 000 euros par jour. Voilà, ça a extrêmement augmenté parce que le gasoil notamment a fortement augmenté ces dernières années. Et il faut savoir aussi que nous ne sommes pas une institution. 87% de nos dons, c'est vous. Ce sont des dons privés. C'est 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Venez d'ailleurs nous donner de l'argent parce que tout est à prendre. 87% de dons privés pour donc financer 24 000 euros de coûts d'une journée de navigation sur l'Ocean Viking.
Oui, et ce qui est l'occasion de rappeler, j'ai lu ça quelque part, que les coûts supplémentaires liés au décret Piantedosi qui force l'Ocean Viking à faire plusieurs jours de mer pour pouvoir débarquer les rescapés a eu un impact de 500 000 euros, il me semble, sur 2024. Qui est simplement lié
Lié simplement au fait qu'on a fait des allers-retours alors qu'il y avait des ports sûrs, des lieux sûrs, beaucoup plus près sur l'Italie, qui auraient pu effectivement nous faire gagner 500 000 euros en ce qui concerne ce chiffre que vous donnez, Anaël.
Tous cop velos, cus un tiretos, cum vogelos, bencomos.
Bien, justement, en parlant de lois et de décrets qui nous embêtent un peu la vie en Méditerranée, on va écouter une militante de Captain Support qui préfère ne pas être nommée, mais qui nous a livré son témoignage hier pour nous parler de la situation des personnes criminalisées en mer Méditerranée.
Moi, je suis une membre parmi d'autres du Captain Support. Captain Support, c'est un réseau d'activistes et de groupes d'activistes et d'associations. C'est un réseau très fluide pour se soutenir justement face à la criminalisation et pouvoir avoir les moyens de soutenir le plus possible les personnes qui sont criminalisées à toutes les frontières, que ce soit en Europe et en Afrique. Et donc, on s'est retrouvés pour pouvoir lever des fonds, pour pouvoir payer, par exemple, des avocats qui s'y connaissent ou des avocats qui sont prêts à nous aider dans ce combat et aussi à changer les discours et donc à avoir tout un travail de sensibilisation, de plaidoyer pour faire comprendre aussi la réalité de la criminalisation et le caractère profondément arbitraire et raciste de cette criminalisation. Alors dans certaines régions, c'est pas toujours le cas, mais il y a quand même toujours une politique de désignation des capitaines de bateaux, en tout cas des passeurs sur chaque embarcation. Et il y a plusieurs techniques qui sont utilisées par les gardes-côtes et la police aux frontières et Frontex. La première, ça va être par exemple de regarder sur un bateau quelle est une nationalité minoritaire. Donc, par exemple, ça arrive qu'on ait un bateau avec que des personnes marocaines et deux personnes sénégalaises. Et il y a de fortes chances que les personnes désignées comme les capitaines de bateau soient les personnes sénégalaises. Voilà, pour les isoler en fait complètement du groupe et casser toute solidarité qui pourrait exister au sein du groupe des gens qui ont pris le risque de traverser l'Atlantique, la Manche ou la Méditerranée. Ça peut être aussi une désignation parce qu'on a pris une photo par un drone et que c'était quelqu'un avec un t-shirt rouge. Donc une personne qui va avoir un t-shirt rouge va être désignée comme le capitaine du bateau. Ça va être quelqu'un qui a été actif aussi, peut-être vraiment, durant le voyage et qui a eu un rôle actif et qui dit, bah voilà, vu que tu as eu un rôle actif, tu es un passeur, tu as profité des autres personnes sur le bateau. C'est mettre la pression sur les autres personnes pour qu'elles témoignent. Alors ces témoignages, ils sont faits sous pression, juste après le désembarquement. Les personnes, elles sont complètement démunies quand elles arrivent. Elles viennent de traverser. Souvent, c'est très violent, une traversée quand même. Et on leur demande de témoigner contre une autre personne au sein de l'équipage. Sinon, bah, elles n'auront pas accès, par exemple, à l'asile, selon la police, qui est évidemment illégale au possible, voire de la violence physique. Donc voilà, c'est vraiment une... Enfin, il y a un caractère extrêmement arbitraire dans la façon dont les personnes sont désignées en tant que passeurs. On garde quand même toujours cette dimension dans les journaux, dans les discours politiques, des réseaux de passeurs, réseaux internationaux, voilà, avec Interpol qui est extrêmement mobilisé, par exemple, surtout dans le nord de la France. Et donc, on a vraiment des discours qui vont être construits et qui se construisent autour de figures qui vont être des figures particulièrement méchantes. Alors, c'était un peu ce que Darmanin disait, on va être bon avec les bons et gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Et c'est... Du coup, il faut construire ces figures de méchants, parce que pour être méchant avec les méchants, il nous faut des vrais méchants. Et donc, on va avoir ces figures, cette figure du passeur, cette figure du trafiquant d'êtres humains, qui sont basées... sur toute une histoire aussi raciste, de tout un champ politique qui est très très étendu, de l'homme noir ou de l'homme arabe, particulièrement violent, violent contre les femmes, violent contre ses pères, et donc de cette idée d'un méchant, d'un vrai méchant qu'il faut absolument combattre et qu'on peut combattre par tous les moyens. Et à commencer par le droit pénal et donc les prisons. Et donc ces passeurs, c'est vraiment des figures qui ont été complètement construites pour être utilisées comme des boucs émissaires de la violence des États, du choix des États de fermer leurs frontières, de ne pas donner de visa, d'obliger à avoir un visa en premier lieu pour pouvoir venir en Europe. Et donc c'est, voilà, ces changements de vocabulaire finalement sont une continuation aussi des changements de discours actuels qui vont de plus en plus vers une extrême violence contre les personnes étrangères, quelles qu'elles soient, particulièrement contre les personnes qu'on considère comme extrêmement indésirables en Europe, même si on les exploite après dans les champs de fraises dans le sud de la France avec grande joie parce qu'on en a besoin comme main-d'œuvre sans papier et sans droit. Mais voilà, on va construire complètement des catégories de personnes déshumanisées et qui deviennent finalement des vrais vilains de films qu'il faut absolument combattre par tous les moyens.
Donc on est toujours en direct de la place du festival, 47e festival de cinéma de Douarnenez. Je suis toujours avec Lisa, toujours avec Valérie.
Je suis toujours là.
Valérie aussi, elle ne dit rien mais elle est toujours là. Et
C'est peut-être l'occasion de vous dire qu'on fait des émissions tous les jours. Vous pouvez nous écouter comme vous le faites sur Transistor à 18h du lundi au vendredi. Et puis comme vous le faites là au public nombreux et en feu sur la place du festival de 13h à 14h en mangeant tranquillement. Donc on est tous les jours là, il y aura des émissions avec des thématiques différentes, des invités différents, et demain on aura Mulu TV, des jeunes, un collectif de journalistes autochtones.
Et du coup, on va continuer sur les thématiques de sauvetage en Méditerranée. On va écouter Babacar. Babacar, qui est aussi membre d'Alarm Faune, qui est originaire du Sénégal et qui est venu spécialement à Douarnenez pour parler des activités d'Alarm Faune, mais aussi de la criminalisation des personnes en migration et de la manière dont l'Europe, en fait, crée de toutes pièces cette situation et de migration. Très mortel en Méditerranée.
Moi, je suis un activiste qui lutte pour la liberté de circulation. Et Alarm Faune aussi est un réseau qui lutte pour la liberté de circulation. Du fait que de venir ici à Douarnenez, c'est un plaisir d'être parmi vous et d'être là aussi à s'expliquer, à montrer aussi la situation, la société européenne. Ce que les médias vous disent et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas la vérité. Parce que quand les gens prennent les pirogues pour venir en Europe, c'est parce qu'il y a des raisons. Il y a des raisons économiques, il y a de la guerre, il y a l'insécurité, il y a le djihadisme, mais tout ça aussi créé par le système. Ça veut dire que le système, quand je parle de système, c'est le système d'Occident. Parce qu'on sait qu'il y avait la colonisation, il y a l'esclavage, voilà. Et ce que aussi les États font du fait que ces jeunes-là ne sont plus en sécurité, et aussi il y a un régime de visa. D'empêcher les gens d'avoir ce qui est leur droit, qui est une liberté de circulation, et ces gens-là s'entretuent pour venir chercher peut-être un endroit sûr ou bien un endroit meilleur. En fait, ce qu'ils pensent, peut-être qu'en arrivant ici en Europe, c'était plus rassurant de rester chez eux. Alors je dis toujours que le système qu'ils ont mis en place, c'est juste un système qui va entraîner de tuer et continuer à tuer des personnes, parce que ces gens-là ne vont jamais, jamais cesser et d'arrêter de prendre les pirogues ou bien prendre le désert. Les personnes qui prennent les pirogues, ce sont des personnes diplômées. Ce sont des gens des universitaires qui ont des bacs plus 3 ou bien des bacs plus 4. Ils ont fait des études, ils ont fait des formations, ils ont eu des diplômes, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver du travail chez eux ou bien ils ne pouvaient même pas accéder dans un travail. Et alors, quand ils voulaient, par exemple, aller déposer pour faire une demande de visa et prendre une vol pour venir en Europe, en arrivant aussi à l'ambassade, l'ambassade ne leur délivre pas des visas. Moi, j'ai vu tout récemment l'ambassade de France a pu refuser un visa à un professeur d'université. Alors, ça veut dire que si c'est un professeur d'université qui demande un visa, on ne lui donne pas. Ça veut dire que l'étudiant aussi, quand il part, on ne va pas lui donner. Ça veut dire qu'il y a un système qui est là. Et puis aussi, c'est un système d'arnaque. Tu viens déposer avec ton visa, avec l'argent que tu vas payer pour le visa. Et si vous n'avez pas aussi pas le visa, on ne va pas te rembourser ton argent. L'Occident, dans les ambassades, dans nos pays, ils ramassent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et ne délivrent pas les visas. Et la personne là aussi, elle n'a pas peur de mourir en mer parce qu'elle est déjà mourir chez eux. Quand la personne est morte chez lui, quand elle voit une autre alternative pour survivre, ça veut dire qu'elle n'a pas peur. Pourquoi ces jeunes-là voient tous ce que leurs amis, parce qu'il y a parfois, tu peux enterrer ton ami aujourd'hui et demain, tu repars. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui t'empêche de partir. C'est parce que tu n'as pas d'espoir chez toi. Les gens partent du Maroc vers le nord, il y a un politique qui leur fait descendre du sud. Et après aussi dans le sud, ils ont allé jusqu'à la Mauritanie, maintenant au Mauritanie, au Sénégal. Mais jusqu'à à ce moment-là qu'on parle, les gens quittent à partir de la Guinée. Ça veut dire qu'au lieu maintenant de faire 15 jours, 10 jours, ils peuvent même faire un mois pour aller vers les îles Canaries. Et les gens ne sont pas trop équipés pour avoir tous ces matériels-là de faire en mer pendant un mois. Nous, on porte toujours notre combat au loin de là où nous sommes, là où on s'active.
Donc vous venez d'entendre Babacar, qui était militant, qui est toujours militant à Alarm Faune. Je lui ai posé une question en off tout à l'heure, qui était de lui demander quelle était la question qu'on lui posait jamais et qu'il aimerait bien qu'on lui pose. Donc il a un peu réfléchi et ce qu'il a fini par me dire, c'est au final l'essentiel du message que porte Alarm Faune, c'est qu'il a vraiment envie que les personnes ici en France, ailleurs en Occident, se posent la question de la, du double standard, en fait, et de la non-réciprocité, du fait qu'un Français peut aller comme il veut au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et que l'inverse n'est pas vrai.
On ne se rend pas compte que nos passeports français notamment, sont des passeports incroyables qui permettent d'aller n'importe où et que c'est extrêmement rare.
Voilà, et que la situation, comme il le disait, l'État français se fait de l'argent sur les demandes de visa. Comme il me l'a confié aussi en off, c'est à peu près 55 millions d'euros par an, parce que l'État français se réserve le droit de dire oui ou de refuser, mais ne rend pas l'argent. Donc voilà. Et on va terminer sur Alarm Phone avec le témoignage de Violette. Et elle, Violette, elle est un peu dans la prolongation de ce que fait Alarm Phone, vu que les situations de crise se multiplient, que les routes étant de plus en plus périlleuses se multiplient également. Donc on a essentiellement parlé ici de la Méditerranée centrale, mais on connaît aussi fortement la route qui est entre la Turquie et la Grèce. Il y a aussi une route qui aujourd'hui est complètement bloquée entre Ceuta et Gibraltar. Et donc de nombreuses personnes commencent à emprunter une route atlantique. Donc ce que disait Babacar, une route atlantique au départ de la Guinée et qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus exposée aux éléments, donc beaucoup plus dangereuse. Violette, elle, milite à Alarm Phone à Calais. Et donc c'est en droite ligne de tout ce dont on a parlé précédemment, vu que les personnes qui ont réussi à atteindre le continent européen, pour beaucoup, essayent de rejoindre l'Angleterre et donc se retrouvent à Calais, où la situation est aussi fortement dégradée.
Eh ben, moi, je m'appelle Violette et ça fait plusieurs années maintenant que je vais à Calais pour être en solidarité avec les personnes qui essayent de traverser la Manche vers l'Angleterre. Je fais partie de plusieurs collectifs à Calais, mais notamment le collectif Alarm Phone, qui est aussi présent à cette frontière maritime qui est la Manche. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec les camarades? C'est plutôt soutenir les personnes, mais aussi leur donner accès à des informations avant leur traversée. Donc ça va être la réduction des risques en mer, les numéros d'urgence, les attitudes, éviter la criminalisation aussi des personnes qui conduisent les petits bateaux. Donc ça, c'est des choses qu'on fait tous les jours avec les personnes avant qu'elles traversent ou quand elles réfléchissent pour traverser. Je pense que Calais a toujours été volontairement invisibilisé, notamment par nos gouvernements, pour cacher la crise humanitaire qu'il y a là-bas, parce qu'il y a aussi les conditions de survie à Calais et dans tout le littoral, parce qu'on parle beaucoup de Calais, mais il y a aussi Grande-Synthe et vers Dunkerque, et d'autres lieux, en fait, hein, dans le nord de la France, où les gens attendent de pouvoir traverser, qui sont majoritairement, enfin plutôt invisibilisés par la presse, notamment. Et donc, c'est oublié, les conditions de survie sont peu décrites et on n'en parle plus, surtout depuis le démantèlement de la Grande Jungle en 2016, où là, la Grande Jungle, elle a été un peu visibilisée quand même dans les médias, surtout son démantèlement en réalité. Mais depuis, en fait, il y a une politique de harcèlement systématique des personnes qui survivent sur place avec des expulsions et des vols des affaires et des biens personnels tous les deux jours par la police. Donc on va dire que la situation, elle s'est ni améliorée, elle s'est aggravée. Il y a un arsenal juridique et militaire et policier qui s'est développé à coups de grands deals de pognon, où l'Angleterre donne vachement de fric en fait à la France pour payer plus de flics, de drones, de caméras, de LBD, de flashball, de gaz lacrymogène, et qui mettent en danger directement les personnes quand elles essayent de traverser, quoi. L'idée, c'est de leur rendre la vie impossible, comme si ça allait marcher pour leur faire changer de projet. Alors qu'en fait, les personnes qui arrivent à Calais, et ça aussi, c'est quelque chose, mais c'est des personnes qui n'ont pas trouvé refuge dans aucun pays d'Europe où ils sont arrivés avant. Ça, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi des proches qui sont en Angleterre, des envies, des facilités de langage en anglais, etc., à cause de la colonisation notamment, qui font que les personnes ont envie d'aller en Angleterre. Enfin, il y a vraiment plein de raisons. Mais aussi, une grosse raison, par exemple, pour nous, c'est le Dublin, les accords de Dublin, où les personnes vont être renvoyées vers les pays où ils sont arrivés et qui sont déclarés responsables de leur demande d'asile. Donc ça, par exemple, c'est un grand problème administratif qui fait que, oui, les gens arrivent à Calais pour aussi tenter leur chance en Angleterre, vu qu'il y a eu le Brexit et que l'Angleterre, le Royaume-Uni, n'est plus concerné par les accords de Dublin, notamment. Bah, c'est comme une cascade d'externalisation des frontières, c'est-à-dire qu'en amont, on va toujours avoir des régimes plus répressifs et qui vont essayer de bloquer les frontières. Après, il y a l'Europe qui bloque les frontières au sud en externalisant ses frontières au sud via l'agence Frontex, via des accords avec la Turquie, avec la Mauritanie, avec le Sénégal, etc. C'est une grande cascade d'externalisation des frontières qui fait qu'en fait les frontières de l'Europe maintenant sont un peu partout et surtout toujours plus meurtrières et toujours plus violentes et racistes. Mais c'est un exemple de la fascisation un peu des politiques européennes, quoi. Et donc du coup, un régime fasciste, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il a une politique nationaliste de fermeture des frontières, raciste, islamophobe, etc. Et en fait, ça se traduit par quoi? Matériellement, des drones, des caméras, des barbelés, des chiens, des flics. Ouais. Mais la solidarité persiste.
Anything to declare?
Passport, please.
Where are you from?
London.
Ah, soleil d'Espagne. Rich people cross the border,
but the poor people cannot. Next. Sorry, we are closed. Hello, welcome to France.
Toujours en direct de la place du festival avec Valérie. Et à 18h en léger différé sur Transistor au 100.4. Valérie, tu présentes ce soir la projection de Fuoco Amare de Gianfranco Rossi, sera projetée à la Balise. Est-ce que tu peux nous parler un peu du film?
Alors, c'est un film que j'ai découvert sur ce début de semaine, que je vous conseille vraiment. Alors, c'est vrai que c'est, hélas, une projection qui a fait le plein au niveau des réservations, donc il n'y a pas de place ce soir. C'est un film qui parle de Lampedusa, Fuoco Amare, par-delà Lampedusa, de Gianfranco Rossi, qui nous raconte la vie à Lampedusa en 2015-2016 avec le regard d'un petit garçon très attachant, Samuele, qui a une douzaine d'années et qu'on voit apprendre à tirer pour chasser les oiseaux avec sa fronde. C'est un petit garçon qui s'inquiète parce qu'il a un œil qui va mal. Enfin, c'est la vie d'un petit garçon dans une famille de pêcheurs qui vit sa vie italienne dans une île de façon tout à fait indépendante de tout ce qui se passe autour de l'exil, autour de Lampedusa. Et c'est assez frappant, ce sont ces vies parallèles, l'enfant et sa famille qui ne parlent pas des migrants qui sont dans une famille de pêcheurs, sauf la grand-mère à un moment qui écoute la radio, la radio qui régulièrement donne le nombre de morts sur les côtes de Lampedusa et qui fait part donc de sa tristesse, sa compassion pour ce qu'elle appelle ces pauvres gens. C'est un film magnifique, il a été récompensé de l'Ours d'Or au Festival international du film de Berlin et le festival a donné l'occasion à SOS Méditerranée de proposer à la suite de cette projection un échange avec le président de SOS Méditerranée, François Thomas, qui sera là donc ce soir à la Balise, et aussi Quentin, qui est médecin à Douarnenez et qui est intervenu deux fois en mission sur l'Ocean Viking avec SOS Méditerranée. Donc on va avoir un échange qui va être passionnant à la suite de ce film.
Oui, et qui nous rappelle, donc effectivement, le film a déjà 10 ans lui aussi, donc il est vraiment synchrone avec l'anniversaire d'Alarm Phone qui a été créé en 2014 et l'anniversaire d'SOS Méditerranée qui, hélas, hein, on peut le regretter, fête ses 10 ans également. Si SOS Méditerranée et Alarm Phone sont encore en activité aujourd'hui, c'est bien parce que les États européens ne font pas leur travail et externalisent de plus en plus leurs frontières à des pays tiers en Afrique, au Moyen-Orient. Et en Angleterre, on peut dire que c'est un pays tiers maintenant. Et du coup, peut-être qu'on peut à un moment évoquer les différences de position en fait, entre Alarm Phone et SOS Méditerranée. Alarm Phone est une association qui se veut militante aussi, qui milite très fort pour l'abolition des frontières, pour la libre circulation des individus, vu qu'on leur rappelle, les marchandises n'ont pas besoin de visa pour circuler, alors que les êtres humains, oui. Quelle est la position d'SOS Méditerranée sur ce sujet?
Alors, on travaille avec Alarm Phone, c'est une des ONG avec qui on travaille fortement sur cette question d'exil, mais en revanche, effectivement, on n'a pas la même position, puisque SOS Méditerranée a une certaine neutralité politique. On a trois missions: sauver, protéger, témoigner. Et on reste sur ces trois missions, sauver, protéger, témoigner. En revanche, on garde une certaine neutralité, finalement, en tout cas sur les politiques nationales. C'est-à-dire que vous n'allez pas nous trouver, en tant que SOS Méditerranée, dans les manifestations contre la loi Darmanin ou dans ce type, sur ce type de militantisme. En fait, on a une posture qui est de militer pour sauver, protéger, témoigner et donc rester dans notre neutralité, entre guillemets, pour pouvoir aussi continuer à effectuer ce sauvetage.
Oui, on rappelle que la priorité, c'est les opérations en mer.
Les sauvetages, oui.
Les sauvetages et, que, et le respect de la loi maritime internationale. Donc c'est vraiment dans ce cadre juridique strict que s'inscrivent les opérations d'SOS Méditerranée.
Et c'est ce qui nous a permis de sauver 42 577 personnes en 10 ans.
Du coup, on va peut-être clôturer sur ce sujet. Rappeler avant toute chose que SOS Méditerranée et Alarme Faune sont des associations qui sont financées par vos dons. Donc si vous avez envie de les soutenir, vous pouvez faire un don à partir de 1 euro. Hein, tout est
et jusqu'à 10 000 euros.
Et jusqu'à 10 000,
20 000, 100 000 euros.
Vincent Bolloré, si tu nous entends.
Juste un mot, puisqu'on parle du festival aussi, comme de notre présence au festival. Vous nous avez vus sur le village des Solidarités ces derniers jours avec un stand. Ce soir, la projection, l'échange avec le président, donc le président national de SOS Méditerranée, François Thomas, et également un médecin de bord, hein, qui est Édouard Nunis-Quentin. Et demain et après-demain, SOS qui propose des ateliers pour jeunes publics, pour les 10-13 ans, des ateliers de création sonore, demain mercredi et jeudi, demain de 14h à 16h30 et jeudi de 10h à midi et demi. Ce sont des créations sonores qu'on pourrait ensuite écouter sur la place du festival jeudi soir. Donc soyez à l'écoute, hein, c'est chouette d'entendre aussi ce que les adolescents font avec nous.
Absolument. Et merci Valérie pour ton intervention qui était très claire.
Avec plaisir.
Et maintenant, je passe le micro à Lisa qui va nous emmener dans un petit peu autre chose.
Bah c'est surtout qu'on vient d'accueillir Mortaza Bebboudi sur le plateau. Bonjour Mortaza.
Bonjour Lisa. Bonjour.
Tu as bien mangé?
Super, trop bon.
Et bien Mortaza, on t'accueille moi avec une joie et beaucoup d'émotion sur ce plateau parce qu'on a partagé des petits moments de radio déjà il y a quelques années au festival. Tu viens au festival depuis longtemps.
2016, oui.
2016. Et puis, on a surtout aussi beaucoup entendu parler de toi récemment parce que tu étais emprisonné dans les geôles des talibans et tu es avec nous aujourd'hui aussi parce que on sait que le Telen Mort de Douarnenez est venu à ta rescousse à un moment donné. Et voilà, je suis très très contente que tu sois là avec nous sur ce plateau.
Merci.
Tu as notamment réalisé le film Moria par-delà l'enfer, hein, sur justement parler des questions de migration dans cette émission. Et récemment, le livre « Femmes, vie, liberté » sur les femmes iraniennes. Mais aujourd'hui, on t'invite, Mortaza, pour que tu nous parles de la blanquette de veau afghane.
Ah bah voilà, exactement. C'est la blanquette qu'on parle depuis le 15 août.
Alors, on va lancer un petit son et puis tu vas nous en dire plus.
Pourquoi la France ne réagit pas, Didier Lesquier? Vous dirigez l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous avez affaire à eux, vous les voyez, ces Afghans. Et les autorités, les pouvoirs publics ne bougent pas. On a une immigration afghane qui est très peu éduquée et on le comprend parce que c'est un pays qui est en guerre, comme vous l'avez rappelé, depuis 40 ans. On est loin de la francophonie. Oui. On n'a pas des qualités personnelles pour s'insérer dans le marché du travail.
Ce qu'on dit des Afghans, généralement, c'est ceux qui savent lire, ils vont dans la restauration. Ceux qui ne parlent pas la langue, ils vont dans le bâtiment.
Oui, voilà, sachant qu'un Afghan, si vous voulez, on voulait mettre à la plonge, mais il ne va pas savoir vous faire une blanquette de veau immédiatement. Ça ne sera pas le cuisinier.
Alors Mortaza, qu'en dis-tu de cette... Peux-tu nous contredire cette fake news absolue sur la blanquette de veau afghane qui n'existerait pas et qu'aucun chef afghan ne pourrait prendre les manettes d'une cuisine, une grande cuisine en France?
Alors déjà, Didier Letchi, le directeur de l'OFI, l'Office français de l'intégration et de l'immigration en France, le patron des migrants, on peut dire, en France, lui, il dit une blanquette de veau immédiatement. Donc, personne ne sait cuisiner une blanquette immédiatement. Ça n'existe pas. Hein, donc, voilà, en arrivant ici, donc c'était une interview date d'il y a un mois, quoi. Et donc, en arrivant ici à Douarnenez, avec mon frère qui est son premier Douarnenez, donc son premier festival, il est là, il est bénévole en cuisine. Donc ce premier jour, donc, le 15 août ici, pour le montage, donc, il a fait une blanquette.
C'est pas vrai.
Donc c'était une blanquette, alors c'était imprévu, hein. On est arrivé, qu'est-ce que vous faites? Bah une blanquette. Ah bah, trop drôle, bah, je vais faire une vidéo sur ça. Donc on a fait une vidéo, donc il a été un peu commenté partout, toute la France, sur TikTok, les réseaux sociaux, et donc voilà, donc c'est des faux chiffres, donc c'est un rapport de délaissé sur l'immigration afghane en France, publié par l'Institut Fondapol, donc il disait qu'on n'a aucun lien avec l'Afghanistan, pourquoi on accueille autant d'Afghans, donc il existe aujourd'hui 100 000 Afghans sur les territoires français. Donc déjà c'est faux, donc on n'a aucun lien, bah oui, on a des liens forts avec l'Afghanistan, la France, on a déployé beaucoup de soldats français en Afghanistan, des interprètes, des anciens auxiliaires qui sont toujours abandonnés en Afghanistan, alors qu'on n'a plus de l'ambassade en Afghanistan, hein. Depuis la chute de Kaboul il y a exactement 4 ans, le 15 août 2021, et donc... Encore autre chose, donc ils disent que les Afghans ils savent rien faire. Donc alors que on a, enfin moi je peux donner des centaines d'exemples. Hein, en France, un médecin à Grenoble, enfin qui travaille dans les vignes en Alsace, et d'autres
grands reporters,
des journalistes, hein, des journalistes qui travaillent aussi pour les rédactions internationales, les rédactions françaises aussi, notamment à Paris. Donc c'est faux, des chiffres qui. Donc si on regarde ce rapport publié par Fondapol, donc par Didier Leschi, avec des faux chiffres qui disaient notamment 99% des Afghans, c'est un chiffre de 2013, hein, des chiffres d'Afghanistan sur place. Donc 99% des Afghans adhèrent à la charia. Donc ils ne précisent pas que c'est des chiffres d'Afghanistan même. Et donc ces chiffres repris par les médias, certains médias, notamment voilà, Europa et Le Figaro, 99% des Afghans en France adhèrent à la charia. Alors que ces Afghans ont quitté l'Afghanistan à cause de la charia. Donc voilà, donc c'est des faux chiffres. Donc il faut bien regarder les chiffres, faut bien étudier parce que.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment on peut faire pour justement de contrer les chiffres, redonner des bonnes informations aux personnes, ne pas laisser circuler ces fake news absolues.
Donc il faut aller regarder aussi d'autres instituts comme l'Institut de convergence des migrations. Il faut aller regarder des chiffres de l'IFRI, donc l'Institut international. Donc voilà, donc il existe plusieurs plateformes qui donnent des vrais chiffres, pas des faux chiffres en fait, donnés par l'extrême droite. Voilà, c'est important aussi voir les médias qui parlent encore d'immigration. Moi, on a plusieurs chiffres publiés par notamment des médias qui parlent toujours d'immigration commune, enfin un média en ligne hyper intéressant, ils parlent toujours d'immigration, donnant la parole aux migrants, alors qu'ils disent toujours, on le dit, ils ne sont pas des chiffres et statistiques, derrière sont des femmes et des hommes et des enfants qui étaient chez eux, des médecins, professeurs, journalistes qui sont là aujourd'hui en France. Donc voilà, donc pour humaniser leur trajectoire, donc ces médias donnent la parole à ces personnes-là. On en a plusieurs, donc allez voir lire ces articles, donc regardez leurs vidéos publiées numériques sur les plateformes numériques. Donc c'est important de ne pas aller, enfin les médias grand public comme je dis, enfin de Bloré, hein,
ouais,
d'autres qui donnent des faux chiffres pour faire peur aux Français et Françaises qu'on a trop de migrants en France. Pas quoi, parce que déjà le droit d'asile c'est un droit fondamental. C'est pas en fait qu'on accueille trop de Afghans ici en France. Ben non, enfin c'est déjà un droit fondamental l'asile. Donc signé par la France, Convention de Genève 1951, et donc c'est un droit donc que l'OFRA étudie chaque dossier et leur donne un statut de réfugié. Alors qu'en la France, la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile, établit avec une décision l'année dernière que les femmes afghanes bénéficient un statut de réfugié automatique, alors que ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes afghanes attendent un visa dans les pays limitrophes, comme en Iran, l'ambassade de France reste fermée. Au Pakistan, c'est débordé. Et des centaines de femmes afghanes attendent dans les campements européens, donc dans le plus grand camp de camp à Lesbos sur l'arche de la Turquie, cette île grecque, Lesbos. Donc des centaines de femmes afghanes attendent toujours une décision. Donc c'est pas vrai. Donc on leur considère pas.
Bon, moi j'ai quand même une grande question, Lisa, pour qu'on mette un peu tout le monde au même niveau. Est-ce que tu sais faire la blanquette de veau?
Ben non.
Ben moi non plus. Par contre, j'ai entendu parler d'une omelette aux dattes.
Ah oui,
alors... oui, parce que moi, je peux témoigner que Mortaza est un grand chef cuistot, parce qu'il y a quelques années, on faisait un week-end de radio avec Vogel les Mouettes, et puis tu étais venu avec ton omelette de dattes. Alors, c'est quoi la recette de l'omelette de dattes?
Omelette de dattes, donc c'est ma recette revisitée. Donc, en Afghanistan, on mange tout salé et sucré, comme le kabuli palau, le plat national afghan. Avec, bon, j'ai dit la recette de kabuli palau, c'est du riz, raisins secs, carottes, vous mélangez bien avec du veau, c'est ce que vous voulez, hein, avec les végétariens, donc vous mettez des courgettes et des aubergines, sinon vous mettez du poulet et d'agneau. Et pour le petit déjeuner, donc on a omelette des dattes. Donc omelette des dattes, c'est des omelettes, hein, normal, vous coupez des dattes, hein, des dattes en Afghanistan, ils sont bien secs. Et donc vous coupez ça, vous faites caraméliser d'abord, et puis après vous mettez des œufs, puis voilà, vous attendez 5 minutes et hop, avec une tasse de thé.
Merci beaucoup Mortaza, on ne pouvait pas espérer mieux pour terminer cette émission qui a abordé des sujets un petit peu sinistres, mais néanmoins importants.
On précise aussi, on redit qu'on pense beaucoup aussi aux journalistes qui sont encore emprisonnés aujourd'hui, et qu'on, voilà, notamment aussi en Afghanistan. On veut redire un petit mot là-dessus pour terminer.
Oui, malheureusement, aujourd'hui, tout est censuré en Afghanistan. Donc, les journalistes, femmes et hommes, sont arrêtés parce qu'ils veulent dénoncer le régime des talibans. Paco, on voit ça de plus en plus. Plus de 350 médias ont dû fermer leurs portes. Mm-hmm. Beaucoup de journalistes, 80% des femmes, ont perdu leur travail de journalisme. Mm-hmm. Elles sont enfermées chez elles, les dernières lois des talibans, donc elles ne peuvent plus aller dans les restos, les femmes. Donc l'espace familial s'est fermé. Donc les femmes n'ont plus droit à aller dans les restaurants. Donc les restaurants sont pour les hommes, les parcs sont pour les hommes. Donc ils sont en train d'emmurer les fenêtres, même qu'elles ne puissent pas être regardées depuis l'extérieur. Donc vous voyez, donc c'est une prison à ciel ouvert. Enfin, ciel ouvert aujourd'hui, c'est le salon. Enfin, elles sont enfermées chez elles, quoi. Et même, elles ne voient même pas le ciel aujourd'hui, malheureusement. Donc c'est donc la liberté de la presse est menacée, la liberté d'expression est de plus en plus menacée, alors qu'aujourd'hui, on a la présence de l'ONU, qui sont aujourd'hui incapables de protéger, enfin, les Afghans qui sont aujourd'hui expulsés des pays limitrophes comme l'Iran, expulsés plus de 2 millions de personnes. Donc oui, c'est grave. Donc la liberté d'expression et la liberté de la presse en Afghanistan est de plus en plus menacée, autant qu'aujourd'hui, on ne veut pas que l'Afghanistan est sanctionné par la communauté internationale, enfin, les talibans.
Je vous conseille de suivre aussi Mortaza. Vous pouvez le suivre sur les réseaux et vous, voilà, pour avoir aussi toutes ces informations et suivre l'actualité afghane. Merci beaucoup Mortaza.
Merci, merci.
Et à tout à l'heure pour l'omelette de dattes.
Yes.
Sinon, on pourra goûter aussi avec ton frère la blanquette de veau, j'espère,
la blanquette
encore au
de
festival.
Voilà. Et le kouign-amann.
Et le kouign-amann.
Merci, merci à vous deux. On va terminer cette émission ici en rappelant quelques informations essentielles. Donc l'exposition d'Alarme Faune et de la commémoration à l'Ivraisemblable à Douarnenez, la possibilité de soutenir Alarme Faune et SOS Méditerranée, la projection de Foco Amaré ce soir
à 18h,
mais... malheureusement complète, mais le film à 10 ans, vous pouvez le regarder chez vous. Et
puis on rappelle que le festival de cinéma appelle à votre soutien, voilà, pour soutenir la culture. On l'a dit hier dans l'émission, on le redit. N'hésitez pas à venir sur la place, donner au festival. Hein, vos dons peuvent être défiscalisés. Voilà, donner au festival, à la culture. Il faut que ça perdure. On se retrouve demain pour une émission, cette fois-ci en présence de Mulu TV. Nous aurons sur le plateau Kankwana Canelos, qui est originaire du peuple Quichua de l'Amazonie équatorienne et journaliste pour le média Mulu TV, et Hubert Gualingar, j'espère que je prononce bien, du peuple Quichua également, aussi en Amazonie équatorienne. Et nous aurons en différé, parce qu'elle n'a pas obtenu son visa, et c'est une grande tristesse pour nous tous et pour le festival, Alexandra Narvaez, qui nous parlera d'exploitation minière dans les terres indigènes de sa communauté. On a réussi à la joindre, donc elle pourra témoigner via Vogel les Mouettes sur Transistor. Allez, à demain.
À demain.
Merci.
Merci.
Édouard Nenet, août 2021, atelier paroles et musique pour les enfants du mini-festival.
On fait la lecture de ce qu'il y a écrit. On fait la lecture. Un taureau qui rit, des camions bruyants, un carambolage de vagues.
On est déjà à 23.
C'est lisible ?
Oui.
Petite île Tristan, 8 étoiles de mer, 24 mulets qui se tortillent. Dans le cinémobile, ça parlait anglais, qui regardait un film ? Dans la galerie d'André, des œuvres en papier mâché et des sculptures bien travaillées. Une estafette rouge et bleue, odeur de frites, voici la place du festival. Plus fort.
Des camions bruyants, un carambolage de vagues.
3, 4, petite île Tristan,
8 étoiles de mer,
24 mulets qui se tortillent. Il nous reste 5 minutes ensemble.